avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation, comme chaque semaine, enfin éducation, quoique. Les voisins, si vous avez des enfants, comment vous voyez les congés d'été ? Est-ce que vous êtes plutôt obsédé par les devoirs de vacances ou à la cool, version détente et jeu éducatif ? Mais peut-on se passer des cahiers de vacances et faire des maths en cuisinant ou du langage avec des histoires ? Bref, que faire avec vos enfants cet été ? Réponse dans quelques instants avec nos spécialistes. Si vous avez déjà de bonnes idées à partager, en tout cas appelez-nous dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Alors je vous présente des invités qui ont des idées à vous proposer. Bonjour Anne-Laure Jacquard.
Bonjour.
Vous êtes une ex-enseignante en école primaire, vous êtes devenue photographe et vous publiez Mission Photo pour les photographes en herbe. Et on va découvrir, donc c'est publié aux éditions Erol, qu'avec un simple smartphone,
oui,
on peut enseigner à un enfant en faisant de la photo plein de choses, de la géométrie, de la grammaire, du langage. Et c'est étonnant, je veux dire que moi-même, j'étais très étonnée. Bénédicte Moulamba également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ex-enseignante au lycée français de Kinshasa, au niveau école primaire, et aujourd'hui consultante en stratégie numérique. Vous avez créé Africatique. Qu'est-ce que c'est ?
Alors Africatique, c'est un bouquet d'applications éducatives pour l'Afrique et les diasporas. Et la spécificité, c'est d'être adapté au contexte africain. Donc on en reparlera sur des particularités pour différents pays, pour chaque pays.
Et beaucoup d'activités utiles à l'école. En deuxième partie d'émission, on fera le point sur le sommet mondial de l'éducation qui se déroule en ce moment même à Londres et dont la mission est une vaste collecte de fonds auprès des États pour les pays les plus en difficulté. On sera en ligne d'ailleurs avec le ministre de l'Éducation au Burkina Faso, Stanislas Ouaro, qui est à Londres actuellement. Et on terminera l'émission avec la chronique et les conseils du psychologue Ibrahim Aïdara à Bamako, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
Bonjour à tous les voisins et les voisines à travers le monde. Je suis Anne Pelagie Youtou, entrepreneur sociale au Cameroun, responsable d'une organisation féminine qui œuvre dans tout ce qui peut contribuer au développement social et économique des femmes, des jeunes et des enfants. Comment est-ce que les enfants sont occupés pendant la période des vacances? Je dirais que c'est un peu complexe, ça dépend des familles. En ce qui concerne les familles nanties qui ont les moyens financiers pour, par exemple, envoyer des enfants dans des camps de vacances où ils seront occupés dans des activités ludo-éducatives parce que ce n'est pas gratuit. Et ils peuvent aussi aller vers les grands-parents dans les villages pour se rapprocher de leur culture. Maintenant, en ce qui concerne les enfants issus des familles défavorisées ou à faible revenu, je dirais que la plupart de ces familles-là ont souvent pour principale source de revenus les petits commerces, les activités génératrices de revenus pour pouvoir élever les enfants, les envoyer à l'école, assurer même leur repas quotidien. Donc généralement, les enfants issus de ces familles-là sont occupés avec les parents dans ces petits commerces. Les enfants sont généralement initiés à des activités qui les exposent, bien sûr. Mais là, ces parents nous disent qu'ils n'ont pas de choix. Mais nous continuons la sensibilisation pour condamner et empêcher le travail des enfants. Je vous remercie. Bonne journée à tous les voisins et les voisines à travers le monde.
Et merci à vous, Anne Pelagie, à Yaoundé, pour ce message, évidemment, qui remet bien le contexte de l'été pour les enfants dans certains pays. Guy François aussi est à Caille en Haïti. Il nous dit ici qu'il n'y a que dans les grandes familles aisées que l'on cultive les activités parascolaires. Sinon, les enfants jouent tout seuls parce qu'ils n'ont rien pour les aider à apprendre. Et puis, il y a aussi le message d'Altiane à Brazzaville, une maman de deux fils de 6 ans et 8 ans.
Bonjour 7 milliards de voisins. Alors, moi, pendant les vacances, j'ai décidé d'inscrire mes enfants au cours de taekwondo pour une durée d'un mois. Donc d'ici mi-août, ils reprendront avec des cours de soutien avec l'aide d'une maîtresse. Merci.
Voilà, un peu de sport, un peu de répétition avec une répétiteur. Les répétiteurs, ils n'ont pas beaucoup de vacances en général. Ils ont du travail avec les enfants l'été. Mamadou est à Boké, en Guinée-Conakry. Moi, je n'ai pas connu d'autres activités pendant mon enfance et pendant les vacances que les activités de mon jumeau. Mon jumeau qui était mon cahier de révision. Voilà, c'est joli. Kaël a 11 ans. Lui, il est à Cotonou, au Bénin. Et pendant les vacances, il nous dit « Mes parents ne ne me force pas à travailler, mais c'est moi qui travaille en revoyant les notions incomprises et les prochaines notions parce que je passe en classe d'examen. Donc voilà, bah oui, il y a des élèves très studieux, même l'été. Hein.
Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est justement de pouvoir s'adapter aux besoins et aux capacités de chacun, à la fois des parents et des enfants, qui pourront réviser seuls ou accompagner des parents, surtout pour les petits, pour découvrir de nouvelles choses, s'ouvrir l'esprit et apprendre de cette façon-là.
Alors vous nous appelez en tout cas pour nous raconter ce que vous faites l'été, 33 7 64 45 51 41, est-ce que vous êtes plutôt devoir de vacances ou activité ludo-éducative?
7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
Anne-Laure Jacquard, les cahiers de vacances, les devoirs de vacances, vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ex-enseignante? C'est indispensable ou pas l'été?
Alors, avant de parler des cahiers de vacances, j'avais envie de réagir aux interventions de nos auditeurs. C'est vrai que dans le livre qu'on propose aux enfants, Mission Photo pour les photographes en herbe, en fait, j'ai inclus un cadre en carton. C'est le rabat de la couverture qu'on a transformé en un cadre en carton à découper pour s'entraîner à la photo. Donc, il y a des activités dans le livre qui sont dédiées à ce cadre en carton avec lequel on s'entraîne à cadrer. Et puis, on peut aussi s'amuser à le présenter devant son environnement pour commencer à essayer de poser un regard sur le monde, établir une vision cadrée.
Donc il suffit juste d'avoir un carton sous la main et une paire de ciseaux.
Et donc par rapport à ces personnes qui parlaient de ce problème de l'éducation en milieu défavorisé, notamment en Afrique, c'est intéressant et important de dire, même si on n'a pas d'appareil photo, on peut quand même éduquer son regard en focalisant effectivement son attention sur quelque chose, peut-être juste
parce
en découpant.
Parce que le cadre, on l'utilise comme une cellule d'appareil photo.
On peut découper dans une boîte de céréales ou dans un carton d'emballage, un cadre en carton, et puis en fonction de la distance à laquelle on la pose d'un sujet. On peut faire un gros plan, on peut faire un plan large, on peut choisir ce qu'on met dans la photo à l'extérieur et c'est déjà une pratique éducative.
Et on va voir tout ce qu'on peut apprendre en observant autour de soi avec vous. Les parents, vous les sentez inquiets à la perspective d'une longue coupure d'école ou pas l'une et l'autre? Bénédicte Mulamba.
Bon, moi, avec mon expérience d'enseignante, les parents souvent sollicitaient des devoirs, même pendant les vacances courtes. Mais après, il faut rassurer également. Je pense qu'il faut varier les activités, c'est très important. Donc, ça peut être la photo, ça peut être les applications éducatives, comme ce que nous proposons avec Africatic, qui a un aspect ludique, amusant, pour découvrir, renforcer les lacunes et voir autre chose, pas seulement reprendre les cahiers de l'année et retravailler de la même façon.
Ouais. Mais c'est vrai que les parents, ils sont tentés de reprendre les cahiers de l'année, comme vous dites, parce que d'autant plus avec le contexte sanitaire, les fermetures partielles ou totales des écoles depuis le début de la pandémie, ils ont le sentiment que le compte n'y est pas en nombre d'heures d'enseignement, parfois.
Oui, tout à fait. Bon, je sais qu'à Kinshasa, les vacances ont été décalées. Actuellement, les enfants ne sont pas et les étudiants ne sont pas en congé, donc pour poursuivre l'année scolaire qui avait été interrompue. Mais on peut chercher d'autres moyens pour avoir la qualité d'apprentissage. Ce qui compte, c'est l'objectif d'apprentissage, de savoir, ce soit en mathématiques, en français, dans les différentes matières de géométrie, etc., de trouver un moyen. On peut être dehors, prendre du sable pour faire des expériences, de l'huile, du riz, etc., comme ce que l'on fait dans notre application Chimie les mélanges, avec des matériaux qui sont très simples, qu'on peut réutiliser à la maison, sans avoir beaucoup de moyens et sans danger.
Oui, parce que votre application, enfin votre série d'applications Africatic, ça ne veut pas dire qu'on laisse l'enfant derrière un écran tout le temps, en fait.
Non, alors il y a les polémiques autour des écrans, mais en même temps, on ne peut pas nier l'intérêt des écrans, téléphones, tablettes, ordinateurs et tout le bénéfice apporté. Après, pour les écrans, il faut un accompagnement d'un adulte. Si on est avec des enfants de maternelle ou du primaire ou d'autres, il y a un début et une fin, comme pour les autres activités. Donc, on va choisir des objectifs pédagogiques. On va travailler, par exemple, avec Makuta pour manipuler des billets. Donc, si on est au Congo, on va manipuler des francs congolais.
Oui. Donc, comme ça,
si
c'est une des applications, Makuta.
Donc, Africatic, il y a à ce jour 17 applications qui sont qui sont après appliquées pour différents pays. Donc il y a des versions par pays. Donc par exemple, Makuta, il y a une version donc Afrique centrale avec les francs congolais et en français, anglais, lingala, kikongo, chiluba et swahili, les quatre langues nationales. Et puis pour l'Afrique de l'Ouest, on va l'avoir en diola, sérère, wolof, poulard, avec les francs CFA, donc pour toute la zone d'Afrique de l'Ouest. Nous avons les francs Djibouti pour l'Afrique de l'Est, également une version avec l'ariari malgache, et donc en malagasy, en swahili pour l'Afrique australe. Et nous venons d'ouvrir la version en arabe pour Makuta et les jeux autour de la monnaie locale, c'est pour la Mauritanie.
Ouais. Donc ça, Makuta, c'est plutôt pour faire des maths. Hein.
Voilà, des maths. Alors au Congo, on dit première à sixième primaire, c'est-à-dire du CP à la sixième, puisqu'on va jusqu'au début du collège.
Ouais. Il y a des applications de science, d'éveil, des applications de logique aussi, africoloriage, ça c'est pour les petits.
Alors là, donc dans la partie, il y a un certain nombre d'applications gratuites. Dans la partie payante, les abonnements ont été ouverts en juin, c'est tout récent. Il y a africoloriage pour les tout-petits ou Kaloun, qui est un jeu de pêche à la ligne où l'enfant doit manipuler. La manipulation est très importante avec l'appareil photo, mais également avec les applications éducatives. Il peut déplacer sa petite pirogue, manipuler sa canne à pêche pour attraper des lettres, des chiffres, des couleurs. Donc ça, c'est plutôt pour les enfants de maternelle ou début de primaire. Il y a différents types de jeux, toujours d'observation, de manipulation.
C'est vrai que le fait d'être en action, que ce soit concret, ça facilite vraiment les apprentissages. Donc que ce soit à l'école où on ne veut pas se contenter de lire un contenu sur un livre ou d'avoir une sorte de cours magistral où on nous explique, de la même manière, on ne veut pas juste avoir sur une application ou un livre quelque chose que l'enfant va juste devoir digérer. Le fait de vraiment mettre en pratique des apprentissages et même de créer des apprentissages dans le cadre d'une pédagogie plus inductive où en fait c'est l'activité qui nous permet de découvrir les compétences et d'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a peut-être...
Et c'est pas toujours possible en classe, parce que l'enseignante, elle a plein d'enfants à gérer, et donc on a plutôt un enseignement descendant de l'enseignante vers les enfants.
La pédagogie essaye quand même d'aller un petit peu dans ce sens. Après, j'imagine que selon les personnalités des enseignants, les effectifs, etc., ils s'adaptent aussi aux contraintes qu'ils ont. C'est vrai qu'en tant qu'enseignant, on essaye aussi justement de mettre les choses en pratique.
Alors, Africatique, donc 17 applications, il y a une dizaine de langues, et ça va continuer, hein, il y a beaucoup plus de langues nationales.
On a commencé avec l'arabe vient d'ouvrir, on va avoir le bambara et le diula dans quelques semaines. Également, on attend le créole d'Haïti, mais étant donné la situation, on a pris un petit peu de retard. On travaille aussi avec des adultes sur des applications d'alphabétisation qu'on va ouvrir à la rentrée, toujours avec le soutien de la Fondation Orange. On commencera à Kinshasa avec le français, le swahili et le lingala pour des dames qui travaillent au marché, qui ont besoin d'apprendre à écrire sur des ardoises,
et toujours
etc.
Une partie des applications qui sont gratuites et puis d'autres applications, d'autres parties qui sont payantes.
Oui, c'est ça. Donc, il y a les savoirs fondamentaux en lettres, puisque c'est décliné sur toutes les langues, en mathématiques, en sciences, donc en éveil, avec de la chimie, découverte de l'électricité, de la botanique, avec des jeux d'observation, de tri, de classement. Les photos aident beaucoup, les photos, les sons qu'il y a sur les applications éducatives par les médias numériques aident beaucoup pour à la fois apprendre d'autres langues ou de plus en plus de nombreuses personnes nous ont dit, que ce soit au Congo, en Mauritanie, etc., que l'apprentissage du français, parfois, c'est un petit peu fragilisé. Donc, avoir sa langue maternelle permet de comprendre ce qui est demandé, les questions, les consignes, les règles du jeu. Et ensuite, pour la partie examen, quand on a compris, on peut repasser au français, puisque l'examen se fait en français quand c'est dans un pays francophone.
Alors, toutes ces applications sont disponibles sur Apple et Google Play. Elles sont conçues made in Congo au départ.
Alors, elles sont conçues donc par Kanyeba Interactive, qui est une entreprise basée à Paris, donc dirigée par Kamaunda, mon époux, et moi-même. Donc, nous sommes associés dans la vie privée et professionnelle depuis plus de 20 ans.
Ouais.
Et nous travaillons également avec des partenaires locaux, dont à Kinshasa, TIGDEM, qui a une équipe de jeunes programmeurs très performants et qui permet de travailler sur des technologies open source de pointe nécessaires pour le développement de ces applications.
C'est vraiment en train d'exploser, ces applications à la portée du grand public, à la portée des populations qui sont les plus éloignées de l'école dans des pays comme la RDC, selon vous, Bénédicte Moulamba?
Oui, là, donc moi, j'arrive de Kinshasa ce matin. J'ai eu la chance de rencontrer des gens dans des écoles, notamment vers Cité Verte. L'enseignant, qui est un des traducteurs avec lequel on travaille, a fait l'introduction en disant « Vous allez utiliser les téléphones, les tablettes de vos parents pour apprendre quelque chose. » Il a insisté, il a répété plusieurs fois. Donc, de nombreux foyers, alors c'est vrai que c'est la capitale, mais on parle d'ici 2025 de 55% d'équipements dans smartphones. Donc, de nombreux foyers ont des téléphones, des smartphones, des tablettes, et ont la capacité d'acquérir ces applications.
Ouais.
Donc, il y a les applications...
Il faut de la connexion Internet. Une fois qu'on a téléchargé l'appli, il n'y a plus forcément besoin de connexion?
Alors, pour le bouquet abonné, il faut avoir une connexion. Mais les écoles qui n'ont pas de connexion peuvent avoir la solution installée sur un serveur en local. Et ensuite, ils font des mises à jour, soit on se déplace, soit ils font des mises à jour en par connexion. Mais ils ont un réseau local qui leur permet de travailler sans la connexion.
Alors vous qui êtes une ancienne institutrice, quand vous voyez les enfants qui jouent avec ces applis, qu'est-ce que vous constatez?
Alors,
qu'est-ce qui vous surprend?
Moi, ce que j'ai trouvé émouvant et très intéressant dans les dernières visites que l'on a faites, c'est que les enfants sont très heureux d'avoir des applications modernes, enfin des supports éducatifs modernes, alors, et en même temps qui parlent d'eux, de leur quotidien, dans leur langue, avec leur monnaie, avec leurs cartes de géographie, puisqu'on a les cartes administratives d'une dizaine de pays. Des choses qui font partie de, qui leur ressemblent, qui sont proches d'eux. Et ils se disent, on a pensé à nous, et je pense que ça retient leur attention et ça va les aider à apprendre, ce qui est l'objectif premier.
Voilà, ça s'appelle Africatique, il y a 17 applications. Vous restez bien sûr avec nous, Bénédicte Moulamba. Vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines. Un message de Brice à Yaoundé au Cameroun qui nous dit, nous avec les enfants, on joue seulement à des jeux pour apprendre à lire. Celui qui ne fait aucune faute a droit à un gros paquet de biscuits. Et si c'est moyen, l'enfant ne reçoit qu'un petit bonbon pour le motiver à mieux faire. Et les gâteaux sont en forme de lettres de l'alphabet, ce qui est très pratique pour réviser. Voilà aussi une bonne idée, hein, faire de la pâtisserie pour apprendre le code de la lecture. Que faire avec vos enfants cet été? Réponse donc avec nos invités, Bénédicte Moulamba, Anne-Laure Jacquard, on va parler avec vous dans quelques instants de la photo, de toute cette ressource photographique, de tout ce qu'on peut faire dans l'apprentissage de la photo pour acquérir des savoirs scolaires. Et si vous avez de bonnes idées à partager, vous nous appelez dès maintenant au 33 7 64 45 51 41. On vous donne la parole juste après. Angèle, la loi de Murphy, autrement dit, l'enchaînement des galères. Everything was going well, no obligation. Thought I'd make a getaway on a chill out day. A coffee to take away.
D'abord eu la pluie, la loi de Murphy a décidé d'enterrer mon brushing. Un mec me demande son chemin, gentil, moi je le dépanne. En fait c'était qu'un plan drac, ce qu'on m'a fait rater mon tram. J'en profite, je passe à la banque, je laisse passer mémé. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ses extraits de l'année, je l'aurais poussé et coincé dans la porte automatique. Thinking it would be okay with this direction. What the heck? I should have stayed in bed. Netflix and honey tea curled up in my bed will be better in my sweater than be outside in this weather. One time, never give it up. Two times, for all the love I've
7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI et comme chaque semaine nous parlons éducation, aujourd'hui on s'interroge que faire avec ses enfants cet été entre les devoirs de vacances, les cahiers de vacances, toujours un peu pénibles pour les enfants sauf pour les plus motivés, les plus studieux, ou les jeux où ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu, des activités amusantes où on apprend des choses utiles ? Pour l'école, on en discute avec nos invités Anne-Laure Jacquard, vous publiez Mission Photo pour les photographes en herbe, et Bénédicte Moulamba, vous nous avez présenté les 17 applications d'Africatik, des applications ludiques dans différentes langues du continent africain pour continuer à apprendre pendant l'été et toute l'année d'ailleurs. Et puis vous nous appelez aussi, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. Marie-Louise nous appelle de Yaoundé au Cameroun. Bonjour Marie-Louise.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous proposez des activités pour les enfants via une association que vous avez cofondée, c'est ça Marie-Louise ?
Tout à fait, ça s'appelle l'Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun.
Oui.
Et en son temps, en présentiel, nous avions occupé les enfants pendant les vacances, surtout pour leur donner des jeux ludiques, éducatifs, et surtout aussi pour leur permettre de s'auto-révéler leur potentialité au niveau de l'artisanat et autres activités. Uh-huh. Et nous étions accompagnés par une entreprise privée de la place qui soutenait les dépenses liées à l'application, aux activités, puisque c'était destiné aux familles démunies, aux enfants des familles démunies en fait.
Oui.
Donc nous avons proposé des jeux comme des jeux de collage où on leur demande juste d'apporter des graines qu'ils trouvent à la maison. Et que même dans l'environnement de l'espace où nous les occupions, ils choisissaient même des cailloux de tailles différentes. Et ils avaient du riz, du haricot, du maïs et des cailloux. Et ils dessinaient d'abord et puis ensuite ils faisaient le collage selon leur inspiration et selon ce qu'ils vivent, ce qui les intéresse, quoi.
Et pour cet été, vous pouvez continuer à faire ces activités ou vous êtes bloqué à cause de la pandémie ?
Non seulement la pandémie, mais nous sommes aussi bloqués au niveau de l'accompagnement financier, parce que c'était l'entreprise qui nous accompagnait, c'était surtout sur le plan financier. Et maintenant, du fait de cette insuffisance financière de notre part, nous avons proposé un personnage qui s'appelle Inanga, et c'est sur Facebook, et c'est Inanga BD qui propose des activités pour pouvoir permettre à ses enfants et surtout aux parents d'occuper les enfants, puisque les parents sont souvent en stratégie de survie et n'ont pas toujours le temps de rester à la maison. Et
donc maintenant, ça se fait à distance. Ça se fait à distance via le téléphone et si on a des unités pour accéder à Internet. Merci beaucoup en tout cas Marie-Louise de nous avoir appelé. Alors moi je voudrais qu'on donne la parole aussi à Anne-Laure Jacquard maintenant qui travaille, vous êtes une passionnée de photos en fait,
oui,
vous êtes une ancienne institutrice.
De photos et puis d'éducation, alors quand, le fait de pouvoir mettre les deux ensemble c'est formidable. D'ailleurs pour rebondir à l'activité dont cette auditrice parlait, je pense que c'est bien de dire que non seulement on peut apprendre en s'amusant, mais je pense qu'on peut on apprend encore mieux en s'amusant. Donc c'est pas comme si pendant l'été on va faire une sorte de sous-école avec des activités ludiques qui ne font n'ont pas forcément d'apport. Je pense qu'il faut dire que non seulement les enfants peuvent avoir besoin d'une coupure l'été et que d'apprendre dans un autre contexte, ça peut les aider à apprendre. Il y a aussi des enfants qui sont pas vraiment faits pour le système scolaire et du coup le fait de leur proposer des activités emballées, présentées, marketées différemment,
moi,
ça peut les aider.
Moi j'étais très surprise quand j'ai regardé votre livre, évidemment bourré de photos, d'images, de schémas, parce que c'est fou tout ce qu'on peut faire en proposant aux enfants de devenir des petits photographes. Hein. Mm-hmm. Et même s'ils n'ont pas de smartphone pour photographier, comme vous le disiez, avec un carton découpé en forme de cadre, en décalant son cadre, on commence. En fait, un enfant, il va commencer par observer, par comprendre ce qu'il y a autour de lui. Et ça, c'est déjà une activité scolaire, finalement.
enfants.
Oui, tout à fait. Le fait, la curiosité, c'est quelque chose qui est très important de développer chez les enfants. Et puis, c'est vrai qu'avec les adultes, en tant qu'adulte, on a tendance à être un peu bridé par le côté technique. Il va falloir que je sache me servir d'un appareil ou que j'ai un appareil élaboré. Mais l'enfant, il n'a pas toutes ces préoccupations-là. Donc, c'est un peu le moment ou jamais pour lui apprendre que la photo, c'est d'abord un regard, c'est d'abord un cadrage, c'est adopter un point de vue.
Et du coup, c'est quelque chose qui peut lui servir. Le cadrage, déjà, pour les plus petits, ça leur permet de découvrir la notion de droite et gauche. Hein, déjà, c'est déjà.
Oui, tout à fait. À quel endroit on va mettre un sujet dans l'image ? Est-ce qu'on va le mettre en haut, en bas, à droite, à gauche ? C'est vrai que ça apporte déjà un apprentissage intéressant. On peut compter.
Oui, et puis vous dites la place du sujet dans l'image. Est-ce qu'il y a des analogies avec la grammaire ? Est-ce que la construction d'une photo, ça peut ressembler à la construction d'une phrase ?
C'est vrai que oui, la photo, c'est un moyen d'expression par l'image. Et c'est vrai que s'exprimer pour les enfants, il y en a qui peuvent être plus ou moins à l'aise avec ça, et puis aussi selon l'âge. Et le fait de leur faire faire des images, c'est aussi leur donner la parole d'une autre manière et leur permettre de partager aux adultes ou à d'autres enfants quels sont leurs centres d'intérêt en fonction de ce qu'ils vont choisir de photographier. Et aussi, effectivement, vous avez raison, il y a toute une grammaire de l'image, on appelle ça la composition, et le fait d'orienter une ligne, par exemple si on voulait évoquer un petit peu la géométrie, on peut en photographiant juste une plaque d'égout ou un morceau de fenêtre par exemple, décider de prendre une ligne et de la mettre en oblique dans sa photo, ou au contraire parallèle au bord du cadre, et ça permet de se rendre compte de toutes les possibilités qu'on peut avoir et d'éveiller l'enfant effectivement à des stratégies un petit peu géométriques, où je parlais de l'idée de compter par exemple, enfin, dans mon livre je lance un peu des défis photographiques.
La soustraction, l'addition, il y a tout ça sur une photo.
L'important, c'est pas juste de livrer un livre, c'est surtout d'être en action pour mettre en pratique. Donc on pourrait lancer le défi de faire une photo avec 5 cailloux dedans ou 3 fleurs. Et du coup, là, on a également un apprentissage mathématique intéressant. Donc il y a ce côté expression qui se rapprocherait plus du français.
Enfin, c'est même pas seulement une histoire de cailloux, c'est rien qu'avec, par exemple, vous montrez une photo avec, dans un village, hein, avec une porte, deux portes, un truc de signalétique de rue, un panneau de signalétique. Et puis ensuite, vous zoomez, donc vous rapprocher le cadre photo, et puis au fur et à mesure, il y a de moins en moins de choses sur le cadre photo.
On se rapproche même avec ses pieds, on utilise ses pieds pour se rapprocher
de plus en
plus.
Et à la fin, il n'y a plus que le bas de la porte et quelques petites fleurs qui poussent au pied de la porte, donc il y a beaucoup de moins de choses. C'est la notion de soustraction. Il y a beaucoup moins de choses sur la photo.
Et d'ailleurs, comme j'essaye d'utiliser dans l'ouvrage un vocabulaire adapté aux enfants, on prend ces métaphores scolaires en disant je vais additionner des sujets ou soustraire, et là, sur ce passage, effectivement, on essaye d'expliquer aux enfants que même s'il a repéré le pissenlit qui est en bas de la porte, s'il prend une photo avec un cadrage très large, la personne à qui il va montrer son image ne va pas voir ce qui l'a intéressé. Donc il faut qu'il apprenne à soustraire des choses pour qu'à la fin il ne reste que l'essentiel.
Et puis il y a des devinettes aussi, beaucoup.
Des devinettes, des enquêtes, des défis, des vrais ou faux. On essayait de proposer ce côté ludique, à la fois qu'il y ait des apprentissages, mais aussi avec des activités que l'enfant va avoir plaisir à réaliser.
Ouais. Les enfants vivent dans un monde d'images aujourd'hui, de vidéos, avec beaucoup de fausses informations aussi qui circulent. Comment ce type d'activité par rapport à l'image, ça peut les aider aussi à s'interroger sur le monde qui les entoure ?
On comprend que la photographie ou le fait de créer une image, c'est adopter un point de vue. L'enfant va se rendre compte qu'il peut montrer les choses d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on va essayer de l'amener à cela. Et du coup, à essayer de lui donner un esprit critique sur les images que lui va voir et qu'il se rende compte un petit peu mieux. Mais c'est valable pour les enfants et pour les adultes, qu'on peut effectivement manipuler avec une image. On peut manipuler dans le bon sens en sublimant quelque chose, en essayant de le rendre plus beau, plus esthétique, en soustrayant peut-être des choses qu'on ne trouve pas belles et pour garder le plus joli. Mais ça peut être aussi évidemment de la manipulation, etc. Donc on éveille l'enfant à un esprit critique vis-à-vis de toutes ces images qui l'entourent et qu'il comprenne que c'est comme le journalisme, il y a toujours un point de vue. Donc voilà, ça n'est pas neutre la photographie.
Et évidemment, c'est l'occasion de dialoguer avec l'enfant, de lui permettre de s'exprimer aussi par rapport à l'image qu'il a choisie, pour qu'il l'a choisie, pourquoi il voudrait la photographier comme ci ou comme ça.
Et c'est très intéressant parce que les enfants ne font pas les mêmes images que nous. Déjà, ils sont plus petits, donc ils vont avoir tendance à prendre vos pieds, ils vont avoir des cadrages, etc. Et c'est vrai que moi, dans mon approche de la photographie, j'encourage vraiment les adultes à ne pas trop imposer leur vision d'adulte sur les enfants par rapport à ces apprentissages. Et c'est vrai que nous, on a des règles de photographie, la règle des tiers, comment il faudrait composer poser, il faudrait pas couper les pieds, il faudrait qu'on voit le sujet en entier, peut-être des choses qui peuvent être soit des règles qu'on a dans la tête ou même des a priori qui ne sont pas valides. Et du coup, le fait de nous, en tant qu'adultes, se laisser l'ouverture à l'enfant pour qu'il nous montre, lui, comment il a envie de composer, qu'est-ce qu'il a envie de montrer sur une photo, je pense qu'ils peuvent nous apprendre aussi des choses via leur regard un peu naïf, mais aussi très intéressant. Ils ont vraiment toujours beaucoup de choses à dire, que ce soit par la parole ou par l'image.
En tout cas, il y a beaucoup de pistes dans votre livre pour monter tout simplement un petit atelier photo avec ses enfants ou avec les enfants du quartier cet été. Bénédicte Moulamba, l'été, c'est aussi le moment finalement d'avoir une autre relation entre les adultes et les enfants, non ?
Oui, tout à fait, d'avoir un petit peu plus de temps, donc que ce soit les parents ou les accompagnants, on peut aborder les apprentissages d'une autre façon. C'est vraiment l'idée de découvrir, et pour ceux qui en ont besoin, de renforcer les points faibles en étant peut-être plus détendu. Et avec Africatique et des applications qui permettent de jouer, de s'amuser, d'être dans son quotidien, de ce qu'on disait tout à l'heure, de manipuler la monnaie, d'écouter des histoires qui se passent à côté de chez nous. Tout ça permet d'aborder l'école autrement. Tout le monde ne se sent pas à l'aise dans la classe.
Oui, il faut le dire.
Donc, c'est pour aussi se réconcilier. Mmh. Et également, ce qu'on disait sur le regard à l'image, etc., d'avoir aussi un regard critique par rapport à son téléphone, à sa tablette, à son ordinateur, et de voir que ça peut être, alors en anglais, serious gaming, les jeux intelligents, entre guillemets. On peut faire des choses qui nous permettent d'apprendre, d'être un allié, de s'amuser, mais de ne pas partir sans limite de temps, de cadre, etc. Tout. Moi, je pense qu'il faut rester dans une modération toujours de temps, et l'adulte est là pour ça.
Anne-Laure Jacquard, quand vous étiez enseignante, vous avez utilisé la photo avec vos élèves ?
Alors, on a fait certaines mises en place d'activités, puis également par l'intermédiaire du livre, on avait proposé il y a quelque temps une activité à des enfants, justement, avec ce cadre en carton, avec des choix photographiques. Et c'est intéressant, oui, de voir un petit peu...
Il y a des enfants qui se révèlent, des enfants qu'on n'entendait pas beaucoup dans la classe, par exemple, qui vont se révéler avec ce genre d'activité.
Oui, le fait de proposer des choses ludiques et différentes, c'est vrai qu'il y a des caractères d'enfants, effectivement, qui vont être mis en valeur plus ou moins bien par tel ou tel type d'activité. Et puis on sent le déclic tout d'un coup, la compréhension de quelque chose, d'un apprentissage qui se fait. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Et c'est vrai que finalement, cette idée d'apprendre en s'amusant, mais aussi en pratiquant, en étant actif, comme on le disait tout à l'heure, ça se rapproche aussi des pédagogies freinées, Montessori, etc. C'est le fait d'être plus en pédagogie de projet, c'est-à-dire c'est pas juste faire des opérations pour faire des opérations, mais c'est en étant actif, en faisant des choses qui sont aussi en interaction avec la vie courante, comme vous disiez tout à l'heure, avec la monnaie, l'application, etc., ou en interaction avec des activités que l'enfant aime. Ça, c'est important aussi pour le sensibiliser. C'est vrai qu'au niveau du livre, par exemple, au niveau des choix des illustrations, j'ai mis beaucoup d'animaux. Il y a un cochon, il y a des chats, des paysages. J'ai essayé de me projeter un petit peu dans le regard de l'enfant, des ballons, des jeux de plage, etc., pour qu'il se sente, pour que ça puisse l'inspirer aussi sur le genre de photos qu'il peut faire. Et du coup, c'est intéressant de s'adresser à l'enfant par rapport à ses propres centres d'intérêt. Ça peut être aussi une bonne manière de faire passer un apprentissage encore mieux.
Et puis pas besoin d'habiter dans un paysage de cartes postales, hein. Tout est intéressant.
Non, tout à fait. J'ai fait un autre livre pour les adultes qui s'appelle La photographie au quotidien. Et j'ai des photographies parfois, mes poubelles, des panneaux de signalisation. Et c'était pour montrer justement aux adultes, mais ça pourrait être un livre qui pourrait s'adresser aussi aux enfants, qu'on n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde, etc., pour faire des photos, mais qu'à sa porte, on peut trouver des tas de sujets. Et en fait, c'est la mise en valeur qui fait l'intérêt de l'image et non pas le sujet lui-même. C'est aussi ce qu'on essaye de faire passer comme message.
Eh bien, merci à toutes les deux, Anne-Laure Jacquard. Mission photo pour les photographes en herbe, c'est publié aux éditions Erol. Énormément, énormément d'idées avec ce concept de photo.
Voilà, et au niveau de l'âge de l'enfant, en fonction en fait de l'accompagnement qu'on peut être prêt à donner, à partir de 5-6 ans, accompagné par un adulte, ça peut être possible, et puis plus tard pour les ados également.
Merci à vous, Anne-Laure Jacquard, Bénédicte Moulamba, Africatique, des applications à télécharger dès maintenant, donc 17 applications dans une dizaine de langues, et alors, d'autres langues vont suivre.
Oui, je voulais juste rajouter qu'il y a 17 applications aujourd'hui, mais qu'il y en a au moins deux de plus chaque mois, et que l'outil numérique permet justement dans les nouvelles pédagogies de jouer sur la différenciation, la personnalisation, Et c'est tout ce que l'on prépare pour les prochains mois et années, d'être plus performant là-dessus, de permettre à la fois aux enfants, aux enseignants, aux parents d'avoir tout ça.
Rendez-vous dans quelques temps. On vous suit bien évidemment, Bénédicte Moulamba. Africatique, dans quelques instants, on fait le point sur le sommet mondial sur l'éducation qui se déroule en ce moment même à Londres. On sera en ligne avec Stanislas Ouaro, ministre de l'éducation au Burkina Faso. Ça sera juste après. Deep Dundugis.
Djoudou don taw deuk deuk buki ñom bor amadu ñep mëna don gor ñep bili von god man gawma kenn kudul sam bop té amu yoonu rëcc comme gën alessandre tour comme jam man yalla rek xam lu tax ma djoudou don taw bama suku ñaan gu mu def fils bi don taw duma ndiago bi fodduma bi tukki tok kaw duma sa gaay talul ludul muki bon tak musuma am flop lok dangar bu ñok xom diko tuufi sen kaw ma fi ne té ñoma upp jottu rap fop budul mbiru copar bu jël suñu contact ni nga shut the fuck up kenajo depuis sama deju mam duma meussa def li tax ba ñime neub naaj tuma yeb ma tax lu muma wolu deug fight duggal rek ay tax ma football jox ma number 9 ñaan ko samay no ñaan ko samay niggas dina ci samay gaade bu samay niggas abuma la impact ya kay wone ñu gis ñaak jottu ñaak tax ma judd don taw
ñaan ko samay no
ñaan ko samay no dina ci samay gaade dore di encaisse ko ni dund soldat xaruma soldalam pour jog wutu sam pap xamel ki le bëgg ak ki wu pourcentage fen bu gëna reey ma ku am ku du do lak mam yalla rek xam lu tax ma jëk juddu ku ne amna lo wara muñ lo wara xex logique ni jour yi nga wara dund yo wara dé yalla mu dajje rek doona fexel ba choonom jeex ku def sa bop ennemi dotal nono wa kenn fi ngay ñak defarot fi sa aduna ya ko mëna tuffa defaro def la nit di xébé mënul wessu xép sa bop budul sa ñaanu wajur ba téré ngay gétaro bindal sa suba tay rak destin du chance dé du yon pa bi dem ba magget di fay lu was rek am am ju lew fi ñu ñëpp xeex lu salté pour fessi ban neex du ñotu gëdd am dé fi jéngu mba dé ragal rëccu ak gatché duñ tassé karu mère bu mugni sey bu tass tay sama principe ak sama ngor rek ay fess sama compte sama dignité sama xolam ay fek sama mort duma ñé sama morom ba tok di fenn sama bop duma fenn sama bop ni jégg bu xéssal ba xonk life lu nekk ak tam da ngay xéso ko gom life lu nekk ak tam entre xel wala xol janna ba nopi ku ko yennu rek sa xel fa tolo xax nga ba sonu ma pour am lo dundalé sa njabot té nak sa doomi mag nañ juk tek téral la jot na life lu way def popam kën du fay sama bor
7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, nous parlons éducation comme chaque semaine et en ce moment même le sommet mondial sur l'éducation se déroule à Londres. Il s'agit d'une vaste campagne pour reconstituer les fonds du partenariat mondial pour l'éducation, pour collecter auprès des États au moins 5 milliards de dollars destinés aux pays les plus en difficulté concernant leur système scolaire. On est en ligne avec un ministre, Stanislas Ouaro. Bonjour monsieur le ministre.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso. Merci d'être en ligne avec nous de Londres. Vous vous êtes rendu à ce sommet qui est organisé par le Partenariat mondial pour l'éducation. Beaucoup de ministres du continent africain ont fait le déplacement. Quel est l'enjeu dans un pays du Sahel tel que le Burkina ?
Alors, il faut dire que l'enjeu est extrêmement important parce que le Partenariat mondial pour l'éducation, depuis 2009, est le principal bailleur de fonds de l'éducation dans notre pays. Et de 2009 à 2020, nous avons reçu du Partenariat mondial pour l'éducation l'équivalent de 253 millions de dollars US, ce qui a permis d'améliorer substantiellement donc, les indicateurs d'accès et de qualité de notre système éducatif. Et donc, pour un pays comme le Burkina Faso, qui aujourd'hui est en proie à l'insécurité, et au regard aussi de la survenue de la pandémie du Covid-19, qui a provoqué, donc ces deux facteurs ont provoqué la fermeture de milliers d'écoles dans notre pays. Donc, les ressources du PME et l'accompagnement du PME sont essentiels pour que notre système éducatif soit résilient.
Avec plus d'un million de personnes déplacées, ça déstabilise tout le système scolaire. Combien de fermetures d'écoles à ce jour ?
Alors, à la date de fin mai, parce que nous avons clôturé l'année scolaire 2020 et 2021, et nous allons entamer l'année scolaire 21-22 le 1er octobre. Donc, à la fermeture, nous avions 2244 établissements scolaires fermés.
Ouais.
Et ça équivaut à autour de 300 000 élèves qui sont en arrêt d'activité pédagogique.
Conséquence des attaques terroristes.
Conséquence des attaques terroristes. Oui.
Et à cela s'ajoutent en effet les problèmes de la pandémie. Votre pays a par ailleurs connu en mai et en juin dernier des manifestations violentes. Je crois qu'il y a eu 2 décès d'élèves contre la réforme des examens. Des réformes qui sont soupçonnées de réduire encore l'accès aux universités publiques déjà saturées. Quels enseignements vous tirez, monsieur le ministre, de ces violences récentes?
Alors, effectivement, il faut dire que ces violences ont provoqué le décès de 2 élèves que nous regrettons, malheureusement. Et cela est parti d'incompréhension parce qu'il y avait 2 réformes principales. La réforme donc de l'examen du brevet d'études primaires, qui est en fait le diplôme terminal donc du post-primaire. Et cette réforme a été mise en œuvre. Aujourd'hui, les résultats montrent qu'on avait raison d'aller dans cette réforme. Deuxième situation, c'est la réforme donc du baccalauréat pour en faire donc le dernier diplôme de l'enseignement secondaire. Et là, c'est conforme en fait au texte communautaire. Nous sommes dans un espace communautaire qui est l'espace IEMOA, donc dans lequel donc le premier diplôme universitaire désormais est la licence conformément à la réforme licence master doctorat. Et donc depuis 2008, on devrait passer donc justement à cette réforme du baccalauréat, ce qui n'a pas pu se faire. Et le président Lifasso a pris l'engagement pour son deuxième mandat d'aller à cette réforme afin que ce soit le dernier diplôme de l'enseignement secondaire. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse poursuivre à l'université comme avant. Il y a des exemples dans l'espace UEMOA comme le Mali, comme la Côte d'Ivoire, où c'est le dernier diplôme de l'enseignement secondaire, mais les élèves admis au baccalauréat postulent donc à l'accès à l'enseignement supérieur dans les mêmes conditions qu'ici. Et donc, on va continuer de communiquer pour sensibiliser davantage donc, les parents d'élèves et les élèves afin que tout se passe dans de bonnes conditions.
À Londres, pour cette collecte des fonds pour le Partenariat mondial pour l'éducation, où vous vous trouvez en ce moment, Stanislas Waro, on va parler aussi beaucoup de l'accès des filles à l'école tout au long du système scolaire pour un pays comme le vôtre. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet actuel sur le plan financier pour vous aider à résoudre les problèmes du système éducatif du Burkina dans le contexte actuel ?
Oui, vous savez que si effectivement on arrive à reconstituer à hauteur de 5 milliards de dollars donc les fonds du partenariat mondial sur les 5 prochaines années, cela permettra à plus de 90 États à faire des revenus de pouvoir améliorer leur système éducatif. Et ça va accroître davantage donc les appuis du partenariat mondial pour l'éducation en faveur de l'éducation dans nos pays, en particulier nous permettre donc de poursuivre de poursuivre les résultats engrangés qui sont favorables à l'éducation des filles dans notre pays. Vous savez que nous avons depuis quelques années atteint la parité filles-garçons à l'école primaire avec une tendance encore plus positive pour les filles. Et nous avons atteint depuis 2 ans la parité filles-garçons au collège avec ce que je peux dire donner comme exemple au collège. Si vous avez 100 garçons, vous avez 101 filles au collège.
Donc, merci beaucoup Stanislas Waro. Bien évidemment, ce sont des sujets que nous suivons et puis on surveillera aussi si les bailleurs de fonds arrivent à suivre le rythme et ne manifestent pas trop de signes de lassitude quant au financement de l'éducation avec le contexte de la pandémie. Merci infiniment Monsieur Waro, vous êtes ministre de l'éducation au Burkina Faso. Dans quelques instants, pour terminer cette émission, c'est la chronique comme chaque semaine du psychologue Ibrahim Aïdara à Bamako.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. On retrouve le psychologue Ibrahim Aïdara. Bonjour Ibrahim.
Bonjour Emmanuel, bonjour aux auditeurs.
Vous êtes psychologue à Bamako et aujourd'hui vous nous parlez d'un sujet toujours très aigu, les questions d'héritage dans les familles polygames au Mali et dans la sous-région d'ailleurs.
Oui, Emmanuel, nous sommes ici au centre d'une question, comme vous le dites, qui devient de plus en plus très difficile. Très difficile et surtout frustrante dans les familles. Je citerai ici les familles polygames. On va aborder ici, par exemple, le cas du père défunt, vu que l'héritage vient principalement du père quand c'est lui qui a une meilleure situation professionnelle. Les enfants s'interrogent moins lorsque la mère décède et que ses biens sont cédés aux enfants sans grande difficulté. Là, il y a moins de problèmes. Mais lorsque le défunt père n'est pas fortuné ou n'est pas une personnalité politique ou même moins influente sur le plan social ou religieux, la pression psychologique sur les héritiers est moins lourde de conséquences. C'est plus facile à gérer. Dans le cas contraire...
Dans toutes les cultures du monde, hein, plus il y a de l'argent, plus l'héritage est compliqué.
Exact. Hein, c'est, dès qu'il y a de l'argent, ça devient compliqué et c'est devenu de plus en plus compliqué au Mali ou dans certains pays du Sahel. Donc, ce n'est pas à négliger. Dans le cas contraire, les familles sont confrontées à la question du partage de nombreux biens qui sont parfois déclarés, connus ou pas, ou de la place à occuper par le fils héritier. C'est très important dans le milieu traditionnel du Mali, ou par certains des fils, parce qu'ils n'ont pas la même place, sachant que selon l'héritage coutumier islamique, la fille est beaucoup moins, je dirais, gagnante que le garçon. Dans la tradition islamique, il est précisé que l'héritage d'un garçon équivaut pas à celle d'une fille, mais à celle de deux filles. C'est quelque chose de très important qui ressort dans les consultations.
Alors justement, comment les enfants et les veuves vivent-elles les conséquences de cet héritage, que ce soit quand ça se passe bien ou quand il y a de grands désaccords entre les enfants et entre les différentes épouses du défunt ?
Les enfants sont toujours les premières victimes. Ça, on doit le garder dans le coin de notre tête. Ils sont toujours les premières victimes, comme dans le cas du divorce des parents. Étant donné que c'est un sujet tabou, hein, délicat et aussi très peu évoqué avec ses enfants, les enfants sont parfois surpris de toute cette bataille que les adultes mènent autour d'eux et ce qui peut advenir par rapport au bien que leur père possédait, par exemple. D'autre part, ils peuvent être aussi très surpris des supposées dettes de leur père. Ils n'en avaient aucun écho et là, du coup, patatras, ils l'apprennent après le décès du père. Ces enfants n'y comprennent rien, ça c'est sûr, et se disent que les gens proches, ces proches qui sont là, ils se battent plus pour eux-mêmes qu'ils sont directement concernés. Hein ? Et ils peuvent être humiliés et trahis par le défunt père. Le défunt père qui n'avait pas pensé à organiser cette question d'héritage, parce que ce n'est pas quelque chose de classique, d'habituel.
Ouais. D'autant plus si le mariage n'a pas été contracté de manière civile.
Voilà, du coup, parce qu'il y a beaucoup de mariages.
On est encore plus dans l'informel.
Dans l'informel, à travers le mariage religieux. Mais ce qui est important, Imane, c'est que dans nos consultations, les enfants parlent de ces frustrations qui pèsent beaucoup sur eux et ils se retrouvent face à des tas de questions, beaucoup de questions sur leur défunt père qui, à leurs yeux, a probablement créé de façon volontaire une telle situation.
Alors, quelles sont vos recommandations, du coup, pour que les questions d'héritage soient moins conflictuelles ou n'aboutissent pas à un éclatement des familles ? Parce que derrière, il y a toujours quelque chose de très émotionnel, ce ne sont pas que des questions d'argent.
Oui, il faut vraiment que les pères de famille prennent toutes les précautions judiciaires et pensent à préparer cette question d'héritage à léguer sur le plan financier, comme en termes de rôle de succession à jouer. C'est très important, il n'y a pas que l'argent. Et ça, c'est pour un but, c'est pour éviter que ces grandes déchirures, ces humiliations, elles le pèsent sur les enfants et que ça peut laisser des conséquences graves sur les enfants. Les enfants, comme les épouses, sont de grandes perdantes dans tout ça. Et ce qui est important aussi, c'est que les parents doivent savoir, surtout les pères, c'est qu'il faut voir un notaire. Et aussi, en même temps, parler avec une personne digne de confiance. À un certain âge, je pense qu'en parler au premier fils, c'est quelque chose de très important. Ou au plus âgé parmi les enfants, quand il y en a plusieurs, bien sûr.
Merci Ibrahim Haïdara pour ces questions d'héritage et toutes les autres questions que vous évoquez dans vos chroniques, bien sûr. Vous pouvez nous questionner, les voisins et les voisines, si vous avez un problème avec votre enfant dans la famille, 33 7 64 45 51 41. Et on réécoute toutes vos chroniques, tous les conseils sur les plateformes de téléchargement avec le podcast Parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
Et demain, 7 milliards de voisins, ne manquez pas le reportage en Guinée-Conakry sur la littérature de jeunesse, des livres, des histoires pour permettre aux jeunes de grandir. À demain. Littérature sans frontières.